Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver, heureux de partager ces moments avec vous. J'adresse une salutation spéciale à ceux qui nous écoutent, grâce au web, dans le département de la Nièvre, dans le département de l'Aube et aussi outre-Atlantique, au Canada en particulier. Nous poursuivons ce jour l'étude concernant l'Église de Jésus-Christ, comptant sur la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Comme nous l'avons dit les mois passés, l'Écriture est pour nous la référence, le fondement de notre foi. Rappelons simplement notre manière de procéder pour mener à bien cette étude. Nous laissons parler l'Écriture, de sorte que nous disons « Voici ce qui est écrit, et c'est cela que nous croyons ». Et comme l'apôtre Paul l'a recommandé aux chrétiens qui se trouvaient en Galatie, nous vous engageons à contrôler dans les Écritures ce que nous vous annonçons. Nous apprenons de l'enseignement que le Christ et les apôtres nous ont laissé, cet enseignement auquel aucune, entre guillemets, nouveauté, même apportée par un ange du ciel, ne doit rien changer. Pour mémoire, je cite Galates chapitre 1, verset 8, Bible français courant, Galates chapitre 1, verset 8. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous, ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Car les Galates avaient été ébranlés dans leur foi par des prédicateurs ambulants que personne n'avait envoyés. Alors, pour le bien des Galates, l'apôtre Paul n'hésite pas à se mettre en cause, ainsi que ses compagnons, voire d'autres prédicateurs. On comprend facilement pourquoi il n'a pas été contrarié ou vexé par l'attitude des Juifs religieux dans la ville de Bérée. En effet, il est écrit les concernant qu'ils avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Oui, ils prenaient soin de vérifier si ce que Paul leur disait était exact. Attitude sage et nécessaire, même à l'égard de ce que vous entendez de ma bouche. Notre responsabilité, comme le précise Paul à Timothée, c'est d'annoncer correctement la parole de la vérité. De même, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, dénonce des individus qui tordent le sens des Écritures. Ils causent leur propre ruine, mais hélas, aussi celle de ceux qui les écoutent. Bien-aimés, pour conclure cette introduction, je dirais simplement ceci. Pour connaître la vérité, revenons simplement à la source de la parole de Dieu, les Saintes Écritures. C'est ce que nous nous appliquons à faire dans chaque émission. Récemment, quelqu'un qui prenait des notes en écoutant m'a dit « Cela va trop vite, on n'a pas le temps d'écrire les références citées. » Remarque reçue, 5 sur 5. Promis donc, par déférence pour ceux qui veulent prendre des notes, je veillerai à répéter les références citées. Nous avons évoqué 12 qualificatifs par lesquels les Écritures désignent ce qui forme l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés, souvenez-vous, des disciples, des chrétiens, des croyants, des saints, des fidèles, etc. Ce jour, nous allons examiner divers symboles qui illustrent l'Église de Jésus-Christ. En premier, nous placerons l'édifice, car c'est bien l'image qui vient à la pensée quand nous parlons de l'Église qui est au centre du village. Je lis 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. l'Église de Jésus-Christ est une maison spirituelle formée de pierres vivantes. Précisons, ceux qui sont sauvés, soit le racheté et autres noms mentionnés précédemment. Un édifice dont Jésus est la pierre angulaire. C'est ce qui est souligné dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 et suivants. Nouveau Testament, bonne semence. Éphésiens chapitre 2, versets 19 et suivants. Je lis. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse de l'angle. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, Bible français courant, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, nous lisons ceci. Je cite, « Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit. Je demeurerai et je marcherai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Un temple est un lieu, un sanctuaire, dans lequel Dieu, qui demeure partout, se localise. Je cite Exode chapitre 25, chapitre 25, versets 8 et 9. Exode chapitre 25, versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Pendant un temps, le peuple a été, entre guillemets, nomade. Cette période est rappelée à l'occasion de la fête de Soukhot ou fête des cabanes. Je lis Lévitique chapitre 23 verset 42-43. Lévitique chapitre 23 verset 42 et 43. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Dieu se tenait au milieu de lui via le tabernacle appelé aussi tente d'assignation. Notez Exode chapitre 33 versets 7 à 9. Exode chapitre 33 versets 7 à 9. Puis, quand le peuple, entre guillemets, a été installé dans des maisons, il y a eu construction par Salomon du temple. Voir 1 Roi chapitre 8 verset 13. 1 Roi chapitre 8 verset 13. Voir aussi 1 Roi chapitre 6 verset 13. 1 Roi chapitre 6 verset 13. Et 1 Roi chapitre 8 verset 27. 1 Roi chapitre 8 verset 27. Alors Dieu a, entre guillemets, occupé un lieu fixe. En fait, ces édifices, tente d'assignation ou temple de Salomon, matérialisaient la grande vérité de la Nouvelle Alliance, la réalité de l'Église comme sanctuaire spirituel. À Athènes, devant le conseil de l'Aréopage, l'apôtre Paul a déclaré ceci. Je cite Actes chapitre 17, versets 24-25. Actes chapitre 17, versets 24-25. Dieu, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. C'est ce que Jésus sous-entend quand il parle à la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Je cite, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dans ce temple spirituel, édifice formé par les pierres vivantes, c'est-à-dire l'Église, les chrétiens, agissant en qualité de sacrificateurs, voir Apocalypse chapitre 1 verset 6, Apocalypse chapitre 1 verset 6, offrent des sacrifices spirituels, soit des sacrifices de louange. Je cite Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Le nom de temple, puis d'église, voire de cathédrale quand l'édifice est majestueux et est le siège de l'autorité épiscopale, a été donné à l'édifice qui accueillait les rassemblements des croyants. Les premiers disciples fréquentaient, petit a, le temple de Jérusalem, acte chapitre 3, verset 1er, acte chapitre 3, verset 1er, petit b, les synagogues, lieu de prière des Israélites, puis, comme conséquence d'opposition et de persécution, les disciples ont été réunis à part. Je lis acte chapitre 14, verset 1er et 2e, acte chapitre 14, verset 1 et 2. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Je lis maintenant Actes chapitre 19, versets 8 et 9. Actes 19, versets 8 et 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Remarque, la construction des églises, c'est-à-dire des bâtiments au Moyen-Âge, se faisait à l'aide de rampes de terre qui s'élevaient en même temps que l'édifice. Quand l'ouvrage était achevé, on enlevait la terre et l'œuvre, disons-le, le chef-d'œuvre, apparaissait au grand jour. De même, l'Église, le temple du Dieu vivant, a besoin pour sa croissance, en stature et en nombre, de services tels que ceux d'enseignants, d'évangélistes et autres témoins, donnés pour, je cite, le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ, voir Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, Éphésiens 4, 11 et 12, nous écoutons une page musicale. Parmi les symboles qui illustrent l'Église de Jésus-Christ, nous citerons en numéro 2 le corps. Plusieurs textes de l'Écriture en font usage. Éphésiens chapitre 1, verset 22-23, Bible français courant. Éphésiens chapitre 22, verset 23. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens 5, 23. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Remarque, dans ce verset, le mot-clé est « un », et non pas « tous ». Un seul esprit, un seul corps. Le Saint-Esprit anime ce corps, car l'Église de Jésus-Christ est un organisme vivant et non une organisation. Je lis encore 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Maintenant, Romains chapitre 12, verset 4 et suivant. Romains chapitre 12, verset 4 et suivant. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Cependant, chaque membre du corps est utile, a une ou plusieurs fonctions à remplir. J'ignore si à ce jour, la science a compris l'utilité de l'appendice iléocaséal, mais le Créateur l'a prévu au bon emplacement et pas pour rien. Nous étudierons plus en détail les diverses fonctions qui s'exercent dans l'Église dans une prochaine émission. Et de même que notre corps subit l'agression de diverses maladies, le corps de Christ est affecté par diverses maladies qui se développent au milieu des croyants. Nous verrons cela ultérieurement. Troisième symbole, la fiancée, l'épouse de Christ. Voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Deuxième lettre, chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. En effet, je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8, Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8, nous lisons ceci. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin tissu de lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans l'attente des noces, l'épouse se prépare, se pare, avec les œuvres justes. Ici, nous avons encore la notion de service. Le moment venu, le Seigneur lui-même viendra accueillir son épouse sur les pas de la porte lors de l'enlèvement de l'Église. C'est la glorieuse espérance de tous les chrétiens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est la réalisation de ce que Jésus avait promis à ses disciples. Je cite Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. C'est à ce moment-là que l'Église universelle sera réunie. Rappel de ce qui a été dit le mois précédent, l'Église est l'assemblée ou le rassemblement de ceux qui sont sauvés. C'est ce que nous avons appris avec Actes chapitre 2, verset 47. Actes 2, 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, certains ont rêvé à une réunion, un meeting, comme disent nos frères anglophones, qui réunirait les chrétiens du monde entier. Impossible à concrétiser. Toutefois, quand bien même cela se ferait, nous n'aurions pas, pour autant, rassemblé l'Église de Jésus-Christ. Il nous faut distinguer deux notions de l'Église, l'Église locale et l'Église universelle. L'Église universelle n'est pas le rassemblement des églises locales. Elle est spirituelle et ne sera manifestée que dans l'éternité lorsque, lors de l'enlèvement, tous les croyants de tous les temps et de tous les lieux seront réunis dans la gloire. L'Église locale est une réalité de terrain et historique. Comme son nom l'indique, elle est sise à tel endroit, dans telle ville ou contrée, à Corinthe, à Éphèse, à Thessalonique, à Rome, en Galatie, comme le précisent les lettres adressées par les apôtres aux chrétiens de ces localités. Lorsque l'Église universelle sera manifestée et qu'elle paraîtra comme telle, l'Église locale aura cessé d'exister en tant que locale. C'est l'un ou l'autre. Tout ce que le Nouveau Testament dit et enseigne est adressé à l'Église locale. Les valeurs et principes de l'Église universelle sont spirituels et éternels. Ceux de l'Église locale devront l'être en priorité, sous-entendu spirituel, sur les contraintes et obligations terrestres. Nous faisons une nouvelle pause musicale. Autre symbole de l'Église de Jésus-Christ, la Nouvelle Jérusalem. Je lis Apocalypse chapitre 21, versets 9 à 11. « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Je lis Galates chapitre 4, versets 26 Bible français courant, Galates chapitre 4, verset 26, « Mais la Jérusalem céleste est libre, et c'est elle notre mère. » Nous avons aussi, pour imager l'Église, la notion de peuple. Je cite 1 Pierre chapitre 2, verset 10. 1 Pierre chapitre 2, verset 10. « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Dans Galates chapitre 6, verset 16, Galates chapitre 6, verset 16, une précision est apportée. Je cite « Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Et maintenant, la famille de Dieu. Je lis Galates chapitre 2, verset 19. Galates 2, 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Un dernier verset pour clore ce chapitre concernant les symboles qui illustrent. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, Bible français courant. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. « Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. L'Église de Jésus-Christ est centrée sur la personne du Christ. Il en est le chef. » Voir Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Il en est la tête. Voir Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la pierre angulaire. Voir Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il est aussi l'époux attendu. L'ivraie, tout comme le blé, pousse dans le même champ. Elle a une apparente ressemblance avec le blé, mais l'ivraie ne porte pas de fruits, c'est-à-dire d'épis. Tout rassemblement local qui porte le nom d'Église n'est pas forcément, entre guillemets, du blé. L'apôtre Paul le rappelle aux Galates. Je cite chapitre 6, verset 15. Galates chapitre 6, verset 15. C'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Cela signifie être en Christ. Je lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lors de la première résurrection, les morts en Christ et les vivants, ceux qui sont en Christ, seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Rappelons la parole de Jésus à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas une carte de membre attestant l'appartenance à telle dénomination religieuse, voire la fréquentation assidue aux offices, qui est vitale. C'est d'avoir été ajouté à l'Église par le Seigneur. Rappel, Actes chapitre 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimé, Jésus est-il ton sauveur? Bien-aimé, es-tu sauvé? Je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, le troisième jeudi du mois prochain. Prenez soin de lire et d'étudier les Écritures. Prenez soin de vérifier ce que vous entendez. Que Dieu vous bénisse en ouvrant vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, que vous compreniez aussi quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Amen.